Page 1025, pour lire Luc au chapitre 19, verset 28. Donc page 1025, Luc chapitre 19, verset 28. Et je vais lire jusqu'au 27, verset 44. Après avoir ainsi parlé, il partit en avant et monta vers Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près du mont dit des Oliviers, il envoya deux de ses disciples en disant: Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande: Pourquoi le détachez-vous? Vous lui direz: Le Seigneur en a besoin. Ceux qui avaient été envoyés s'en allèrent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent: Pourquoi détachez-vous l'ânon? Ils répondirent: Le Seigneur en a besoin. Et ils l'amenèrent à Jésus, puis ils jetèrent leurs vêtements sur l'ânon et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Il approchait déjà de la descente du mont des Oliviers lorsque toute la multitude des disciples, tout joyeux, se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: Béni soit celui qui vient, le roi au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule lui dirent: Maître, rabroue tes disciples. Il répondit: Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. Quand, approchant, il vit la ville, il pleura sur elle en disant: Si toi aussi tu avais su, en ce jour, comment trouver la paix? Mais maintenant, cela t'est caché. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de palissades, t'encercleront et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps de l'intervention divine.
Merci Églantine. Alors ce que je vous propose de faire, c'est de garder...
Avec plusieurs fêtes successives, avec Dimanche des Rameaux et puis aussi Pâques, dimanche prochain, on s'est dit que ce serait bien d'avoir une mini-série dans l'évangile selon Luc. Et l'idée, c'est d'avoir les grands tournants du christianisme à travers ces célébrations. Et c'est ce qu'on va faire ce soir, donc, et dans les deux prochains dimanches, et aussi au moment de la Pentecôte. Avant d'aller plus loin, j'ai une question très importante à vous poser. Est-ce que Laurent Blanc est un bon sélectionneur pour l'équipe de France? Alors déjà, il y a la moitié. Qui c'est Laurent Blanc? Non. Laurent Blanc, c'est effectivement le sélectionneur actuel. Comment savoir si c'est un bon ou un mauvais sélectionneur? Est-ce que c'est dans la durée qu'on va voir s'il est bon? Est-ce que c'est face à un défi, championnat d'Europe? Ou est-ce que c'est comme le bon et le mauvais chasseur des inconnus? C'est complexe, quoi. Il n'y a pas vraiment de différence. Il faut reconnaître que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident quand on pense au temps, et il n'est pas si loin que ça, où la France ne gagnait rien et où on n'avait pas encore gagné de championnat du monde. Avant 1998, on se souvient d'Aimé Jacquet qui est passé par pas mal de contestations. Et justement, après la victoire, les médias sont revenus sur la contestation qu'il avait connue, dont il avait été l'objet. On se souvient de toutes sortes de critiques qu'il avait reçues. Alors, contestable ou incontestable? Comment savoir? Est-ce que c'est l'histoire, dans la durée? Est-ce qu'on peut seulement le déterminer à ce moment-là? Ou est-ce qu'on peut le dire dans le présent? Et même chose pour un politicien, même chose pour un médecin que vous devriez consulter, ou pour n'importe quelle personne qui est dans une place de responsabilité, on se pose la question, est-ce que je dois contester ou est-ce que c'est incontestable? Et la difficulté, elle se retrouve dans ce texte qu'on a lu. Et je dirais que c'est encore plus important pour ce que Jésus affirme. Il affirme apporter une paix qui est centrale pour l'existence, sans laquelle c'est la destruction qui nous attend. Il annonce amener une paix avec Dieu, paix qui se vit ensuite parmi les humains. Il affirme aussi avoir autorité sur toute existence, d'être le Messie. Alors, il faut se demander, est-ce que c'est contestable ou est-ce que c'est incontestable? Et je vous suggère que c'est justement ce que Luc nous place devant les yeux. Paradoxalement, une royauté incontestable et une royauté contestée. On va le faire en deux temps, dans les versets 28 à 40. Un roi incontestable, et Pierre le crierait. Et la deuxième partie, un roi contesté, les Pierre le diront. 41 à 44. Dans la première partie, je vous suggère qu'on trouve les traces d'un roi incontestable pour différentes raisons. Elle se termine avec cette déclaration de Jésus. Je vous le dis, si eux se taisent, donc les disciples, ce sont les pierres qui crieront. Deuxième partie, on trouve les traces d'une contestation vis-à-vis de lui. Et Jésus conclut son discours en affirmant que l'avenir le dira. Et de la ville qui refuse la paix, il ne restera pas pierre sur pierre. Avec ces deux parties à l'esprit, on peut se demander comment résoudre le paradoxe incontestable ou contestable. Et Luc veut justement nous amener à nous positionner, à nous dire finalement, est-ce qu'il est bel et bien ce qu'il affirme être? Est-ce qu'il est bel et bien le Messie? Ou est-ce qu'il ne l'est pas? Le roi incontestable, les pierres le crieraient d'abord. Où est-ce qu'on voit les traces d'un roi incontestable? Je vous suggère que le premier indice se trouve dans la destination de son voyage. Jésus se rend à Jérusalem et on sait, grâce aux autres évangiles, que ce n'est pas la première fois que Jésus se rend à Jérusalem. Mais pour Luc, il en a fait la trame de tout son livre, de tout son évangile. Il fait du déplacement de Jésus de la Galilée vers Jérusalem la trame de tout son récit. Jérusalem, la ville où il va mourir. Et la Galilée, le lieu d'où il est originaire. Et Jérusalem, ce n'est pas n'importe quelle ville, c'est un peu l'équivalent de Paris. Depuis que Clovis a fait de Paris la capitale, Paris prise ou non prise, n'est-ce pas ce qui détermine qui gouverne finalement en France, dans la nation? Et Jérusalem, c'est la ville où était le grand roi David, qui a régné quelques mille ans plus tôt. La ville où ses descendants sont montés sur le trône. Et on doit avoir à l'esprit que Luc a commencé son évangile avec la généalogie de Jésus, ou assez rapidement a dévoilé la généalogie de Jésus, Jésus lui-même de lignée davidique. Avancer à Jérusalem avec les acclamations qu'on voit, c'est pas insignifiant. Ça, c'est pour l'importance du lieu, Jérusalem. Mais que penser de ce qui précède? Alors que Jésus se rapproche de la ville, on voit qu'il demande à des disciples d'aller chercher un ânon, sur lequel il va monter par la suite. Et quand on voit la place que Luc occupe dans son livre pour parler de cette demande, il décrit ce qu'il va y avoir comme échange, et ensuite, dans les versets 32 à 33, on décrit comment ça s'est passé. Tout se produit comme Jésus l'a annoncé. Mais Luc prend de la place pour décrire des circonstances qu'on aurait pu simplement résumer en disant « Jésus monta sur un ânon ». La manière dont les choses se sont passées a été expliquée de différentes façons. Pour certains, Jésus annonce à ses disciples, les deux qu'il envoie, de manière miraculeuse, que quand ils vont demander cet ânon, les choses vont se passer comme il l'avait prévu, de manière miraculeuse. Pour d'autres, Jésus avait pris les devants en rencontrant ce propriétaire et en arrangeant cela avec lui. Mais dans un cas comme dans l'autre, Jésus démontre qu'il prépare cette entrée à Jérusalem et d'une certaine manière qu'il contrôle la situation. C'est son autorité en tant que Messie qui se dévoile ici encore. Mais quel genre de Messie? Quel genre de Messie? En sachant que l'Empire romain domine tout le bassin méditerranéen à l'époque, Si un empereur devait entrer dans une capitale, il entrerait comment? Et ce serait avec les grandes pompes, avec une armée, certainement un cheval. Ici, Jésus avance vers Jérusalem sans armée et sur un ânon. S'il y a bien les signes d'une autorité dans ce qu'on voit au sujet de sa requête aux disciples, Jésus ne se présente pas comme un messie politique écrasant. Non, il se présente comme un roi humble et qui annonce la paix. Après tout, est-ce qu'on part au combat avec un âne? Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu La Folie des Grandeurs avec Louis de Funès, mais il y a une scène où on le voit sur un âne alors que tout le monde est à cheval, et c'est ça qui fait que c'est cocasse. Il n'est pas efficace du tout, l'âne ne va pas où il veut, etc. Et pour tous ceux qui attendaient, il y en avait, les zélotes en Israël, qui attendaient la libération du joug romain, cette entrée n'a rien d'un acte révolutionnaire, d'un acte de révolution par la force. Non, il entre avec un ânon, symbole de paix. Mais au-delà, qu'est-ce qui a poussé Jésus à entrer de cette façon? Eh bien, pour celui ou celle qui connaissait l'Ancien Testament, cette entrée, elle n'est pas sans rappeler un texte du prophète Zacharie, chapitre 9, verset 9. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble. » Et monter sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Zacharie se situe entre David et Jésus, à peu près 5 siècles entre les deux. Et de la part de Dieu, il annonce que le Messie, cet oin, ce roi, va venir rempli d'humilité et monter sur un ânon. De manière incontestable, Jésus se présente comme le Messie, le roi qui était annoncé par les prophètes des siècles plus tôt. Mais il y a d'autres signes d'un roi, d'une royauté incontestable. Les disciples retirent certains leurs vêtements pour les mettre sur l'âne et ils font monter Jésus. Et il semble inspirer la foule, des personnes qui eux aussi vont mettre des vêtements, cette fois-ci sur le chemin, pour que Jésus passe dessus. Alors ça peut sembler un peu étrange pour nous, on se dit « Wow, est-ce que je... »